à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 14 novembre. C'est toujours la fête de Saint-Laurent-au-Toul, comme l'an dernier, et du bienheureux Étienne Théodore Cuéneau. Je vous en avais parlé de ces deux saints l'an dernier. Et cette année, j'ai pensé faire tout à fait différent en parlant de Leibniz. Vous serez un peu surpris, ceux qui connaissent un peu Leibniz, que je parle de ce grand philosophe, de ce grand penseur, de cet homme universel. Et on peut lire d'ailleurs dans le Dictionnaire des philosophes, en deux volumes, paru aux presses universitaires de France, excellent ouvrage d'ailleurs, on dit ceci: « Jamais homme, jamais génie ne fut plus universel. Et pourtant, en dépit de tant de rencontres, d'amitiés, d'activités, d'inventions et d'écrits, mort le 14 novembre 1716, il fut enterré, et je cite, « plutôt comme un brigand que comme un homme qui a été l'ornement de sa patrie ». Ce fut l'honneur de l'Académie de Paris d'adresser par la voix de son secrétaire Fontenelle l'éloge dû à ce dictionnaire vivant. Combien pensez-vous qu'il y avait de gens à ses funérailles? Une seule personne, son secrétaire. Et pourtant, je répète, jamais homme, jamais génie ne fut plus universel. C'est curieux, et ça fait bien réfléchir. Aux vanités des gloires de ce monde. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Cet homme absolument exceptionnel s'est intéressé à peu près à tout. Savant, philosophe, théologien allemand, ses prénoms c'est Gottfried Wilhelm et c'est Leibniz. Leibniz, ça s'appelle L-E-I-B-N-I-Z. Je le dis pour les quelques personnes qui n'auraient jamais entendu parler de Leibniz, c'est possible. Et on dit bien dans le dictionnaire des connaissances religieuses que c'est l'un des génies les plus profonds et les plus vastes de tous les temps, et c'est un prêtre qui écrit ça. Il est né à Leipzig le 1er juillet 1646 d'une famille d'origine slave. Son père meurt alors que le jeune Leibniz n'a que 7 ans. Son père était professeur de morale à l'université de Leipzig. Il a donc grandi dans un milieu remarquable. Il a montré tout jeune un esprit extraordinaire. Il était très précoce. Il dévorait les livres de la bibliothèque de son père. Il a appris à l'école secondaire, au collège, quoi, le latin, le grec, puis la philosophie logique et la philosophie scolastique. C'est rien d'extraordinaire, c'est ce que nous faisions dans nos collèges ici même. Mais entré à 15 ans seulement à l'université, il s'applique d'abord à la philosophie moderne. Il lit Bacon, Galilée, Cassandi, Descartes même. Puis il s'intéresse à l'histoire, au droit, aux mathématiques, mais tout ça de façon extrêmement sérieuse, c'est pas simplement un intérêt superficiel. S'intéresse même aux sciences occultes. Oui, il est jeune, beaucoup de jeunes font ces erreurs de nos jours. Sciences occultes, mais pas très grave, rien de grave. C'est un homme sincère et honnête. Il se mêle à des rêveries des alchimistes. Il espère tirer des parcelles de vérité là-dedans, mais il s'en éloigne. Il n'y a aucune branche, on peut dire, du savoir humain qui ne l'intéresse, qui ne le passionne. Et à 20 ans, il a conquis déjà tous les grades que confère l'université dans son temps. En 1667, donc il a 21 ans, il fait la connaissance du baron de Boisnebourg. C'est l'ancien conseiller de l'archevêché de Mayence qui était converti du protestantisme au catholicisme. C'était un homme d'État remarquable et influent. Il introduit son jeune ami, Leibniz, qui est d'origine luthérienne, sur ce qu'on pourrait appeler cet immense théâtre de la vie publique. Et puis, il se met à discuter avec lui des questions religieuses. Et c'est pour ça que je vais vous parler de Leibniz, qui s'est intéressé énormément aux questions religieuses. Je pourrais vous parler de ses conceptions de l'univers, de la création, de Dieu, de l'âme. C'est superbe, mais ce serait trop long. Je vais vous parler surtout de ses préoccupations pour l'écuménisme. Il était en avant de son temps de façon fantastique. En 1672, donc il a 26 ans, s'ouvre pour Leibniz une période de voyage. Il vient à Paris, il est chargé d'une mission secrète auprès du roi Louis XIV, auquel il voulait soumettre les plans d'une curieuse expédition en Égypte. Mais sa mission échoue. Alors, il n'est même pas reçu par le roi. Mais il passe quatre ans à Paris. Il parle très, très, très bien français. Il a écrit une grande partie de ses ouvrages, d'ailleurs, dans notre langue. Et donc, il est dans la capitale du monde savant. Hein? Et c'était extrêmement utile à son génie, ça. Il s'est lié à tout ce que les sciences, les lettres, la philosophie illustraient. Là. Il fréquente Malebranche. Il est admis chez Colbert, entre autres. Il s'entretient, tiens, de Pascal, Blaise Pascal, dont la grande mémoire semble fasciner. Il recherche aussi la société de Port-Royal, des jansénistes où il y avait des gens qui n'étaient pas en dehors de l'Église. Les jansénistes n'étaient pas en dehors de l'Église. Et il y avait là des savants. Il visite l'Angleterre à deux reprises, au début, puis à la fin de son séjour en France. Et à Londres, comme à Paris, bien, Leibniz se plaît à rencontrer l'élite intellectuelle. Il voit entre autres savants justement Newton, avec lequel il aura plus tard, au sujet de la découverte du calcul infinitésimal, toute une querelle âpre et retentissante. Comme vous voyez, il s'intéressait aux mathématiques de façon extrêmement sérieuse. Il rentre d'Angleterre, en Allemagne, puis il passe par Amsterdam, en Hollande, où il a de longues conversations avec Spinoza, qui était un autre génie, rigide. Ça a eu sur le génie de Leibniz une influence qui ne s'est peut-être pas toujours avouée à lui-même. Puis en 1676, il est toujours jeune, il s'installe à Hanovre en qualité de bibliothécaire et de conseiller du duc Jean-Frédéric en Allemagne. Il va y rester jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 40 années, sauf le temps de quelques voyages en Allemagne et en Italie. Et là, ça devient très intéressant, écoutez bien ça, il déploie là une étonnante activité. Une activité d'esprit, évidemment. Il écrit ses principaux ouvrages. Ben, c'est énorme. Il travaille à la réunion des églises protestantes avec l'église catholique. Disons les églises réformées avec l'église catholique, qui est aussi réformée dans un sens. Il y a eu la contre-réforme, la réforme du Concile de Trente. Et puis, travaille aussi à réunir les différents groupes protestants entre eux pour éviter tout cet émiettement du protestantisme. Lui qui est protestant d'origine. Puis il voudrait amener les princes chrétiens là à comprendre que la science est remplie de bienfaits et que c'est très important d'étudier la science, car la civilisation sera sauvée, croit-il, par la foi et la connaissance et les sciences. Alors il veut étendre ça à toute l'Europe, mais aussi à l'Orient. Il fait d'ailleurs des tentatives dans ce but-là auprès de Charles XII, de Pierre le Grand de Russie, puis de l'empereur. Mais il y a des difficultés finalement qui assombrissent ces dernières années. Il meurt donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 14 novembre 1716, dans la tristesse et l'abandon. Il refuse même l'assistance du pasteur luthérien parce qu'il ne sait plus s'il est catholique ou protestant. Il se croit peut-être un peu au-dessus de ses querelles. Son cercueil fut suivi, comme je vous ai dit, de son seul secrétaire, et son corps a été inhumé dans l'église curiale de Hanovre. On dit qu'aucun signe n'indiquait la place de sa tombe avant que le fameux poète Henri Voss a eu protesté contre cet oubli injuste. Et alors aujourd'hui, on peut lire sur une plaque de cuivre cette simple inscription « Ossa Leibnitii », c'est-à-dire « les os de Leibniz. Pour ce qui est de ces idées religieuses qui sont très vastes et très belles souvent, même sur les rapports de Dieu avec le monde, etc., eh bien les préoccupations religieuses, on peut dire, dominaient l'âme de Leibniz. C'est ça qui l'intéressait le plus. Il appartenait tout à fait à ce siècle où tant de grands esprits ont eu comme une ivresse de l'infini. Sommes-nous ivres nous-mêmes de l'infini? Mais voilà un modèle dans un sens. Ce grand génie, l'un des plus grands génies de toute l'histoire de l'humanité, était habité par la préoccupation de non seulement de l'existence de Dieu, mais de son amour. Il s'intéressait même aux auteurs mystiques, tellement il s'intéressait à l'amour de Dieu. Il s'est procuré d'ailleurs les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila. Il a lu Saint Angèle de Foligno. Il a lu Sainte Catherine de Gênes. Eh oui, l'Église du Christ, pour lui, avait été scindée, coupée en deux, par des événements de la Réforme protestante. C'était pour lui une déplorable division, qu'il était urgent de faire cesser. Et l'idée de la réunion des églises était très en faveur à la cour de Hanovre, où il était bibliothécaire sous le duc Jean-Frédéric, qui, lui, le duc, s'était converti lui-même au catholicisme. Il rêvait d'ailleurs de convertir tout son peuple, tous les gens de cette région, dans le Hanovre. Il y avait des négociations qu'on appelle des négociations iréniques, qui rêvent d'union, quoi, se sont engagées. Les deux plus illustres champions de tout ça ont été Leibniz et, du côté catholique, Bossuet. Oui, nul autre que Bossuet. D'ailleurs, certains catholiques pensaient que la conversion de Leibniz était assurée. On l'annonçait même comme imminente. Mais en réalité, quand on étudie bien, on voit qu'il était loin du catholicisme dans un sens. Il était nourri de la pensée protestante, au fond. Il disait, l'essence de la catholicité n'est pas de communier extérieurement avec Rome. La communion vraie, d'après Leibniz, qui fait que nous sommes du corps du Christ, est la charité. Voyez-vous, il s'établissait toujours sur la charité. Il y a une grande part de vérité là-dedans. Combien de protestants séparés de nous, combien d'orthodoxes, combien d'autres chrétiens de toutes sortes sont remplis de cette charité et qui, ainsi, communient au corps mystique du Christ. C'est regrettable que ce soyons divisés, il n'y a pas de doute. Avec la clarté et la force impérieuse qui sont la marque du génie de Bossuet, Bossuet opposait à Leibniz l'intégrité de la doctrine catholique. La bonne volonté cesse du jour où l'on refuse d'admettre une proposition qui est nettement définie, disait-il. Et le Concile de Trente a la même autorité au point de vue doctrinal que les autres assemblées générales de l'Église, les autres conciles. Et ce n'est pas au jugement des fidèles, mais à l'Église elle-même, disait Bossuet, de fixer les limites du pouvoir dont elle jouit. Et il faut laisser en entier le grand principe de son infaillibilité, sans quoi il n'y a plus de fondement solide nulle part. Et voici la lettre de Bossuet à Leibniz du 12 août 1701. « Laissez-nous donc en place comme vous nous y avez trouvé. » Et ne forcez pas tout le monde à varier, ni à mettre tout en dispute. Ah, laissez sur la terre quelques chrétiens qui ne rendent pas impossibles les décisions inviolables sur les questions de la foi, qui osent assurer la religion et attendre de Jésus-Christ, selon sa parole, une assistance infaillible sur ces matières. Et Bossuet termine en disant, c'est là l'unique espérance du christianisme. Je vais vous expliquer ça plus calmement avec un beau texte de Jean Guiton tout à l'heure. Mais revenons à Leibniz. La tentative de réunion des églises a échoué, évidemment, et au fond, il était convaincu, lui, Leibniz, de la suprématie de la raison. Il ne consentait pas à soumettre sa raison à une autorité quelconque. Il écrivait en 1684 au landgrave de Hesse, « Il est vrai que si j'étais né dans l'Église catholique romaine, je n'en sortirais point, que lorsqu'on m'exclurait, en me refusant la communion, sur le refus que je ferais peut-être de souscrire à certaines opinions communes. Mais à présent que je suis né et élevé hors de la communion de Rome, c'est-à-dire dans le luthéranisme, je crois qu'il n'est pas sincère ni sûr de se présenter pour y entrer, quand on sait qu'on ne serait peut-être pas reçu si l'on découvrait son cœur. » Il était honnête, hein? En découvrant son cœur, peut-être il aurait laissé voir ce rationalisme qui en occupait le fond et qui a été l'obstacle radical, n'est-ce pas, à sa conversion. C'est dommage dans un sens, parce que comme le rapporte des auteurs dans un livre que j'ai bien aimé, c'est « La situation œcuménique dans le monde », on dit que des hommes comme Leibniz et Molanus et leurs interlocuteurs catholiques Spizola et Bossuet ont essayé de jeter des ponts. Et pour insuffisante qu'aient été ces tentatives, écrit-on, elles témoignent d'une conscience toujours vivante de l'unité des confessions chrétiennes au sein de cette unique chrétienté. Les confessions chrétiennes étaient ressenties comme de simples partis religieux dans ce temps-là, et non pas comme des églises cloisonnées les unes par rapport aux autres. Ça s'est accentué par la suite. Les relations entre catholiques et protestants sont devenues de plus en plus difficiles. Pourquoi? Ils disent que c'est du fait de l'influence, justement, du rationalisme et du libéralisme, dont le protestantisme allemand se défendait beaucoup moins que le catholicisme. On a des aperçus très intéressants sur Leibniz dans le christianisme et les philosophes de Sertilange, mais c'est dans Jean Guiton, un très bel ouvrage sur l'actualité de Leibniz, il écrit que le problème posé par la division des chrétiens, c'est évidemment pas d'hier, ça date du début de l'Église. Et ils ont été à l'horizon des penseurs du plus haut rang. Ces problèmes ont agité bien des fois, au temps où les premiers effets de la réforme se faisaient sentir, hein, ils ont occupé des grands savants, théologiens, philosophes, et en particulier ils ont retenu, comme dit Guiton, le penseur le plus vaste et le plus profond de l'Europe du XVIIe siècle, Leibniz. On peut même dire que c'est le souci de travailler à l'unité des chrétiens qui était le premier ressort de la pensée de Leibniz. Pensée que le plus grand génie, peut-être, de tous les temps, Leibniz, se soit préoccupé de l'unité des chrétiens. Guiton dit, lorsqu'il prend conscience de sa vocation de philosophe, c'est en vue d'un grand projet, qui est de diminuer les oppositions des chrétiens en vue de les réunir, et son génie perspicace discerne déjà les dogmes qui font le plus difficulté, dont le principal est la doctrine catholique sur l'Eucharistie, dont je vous ai parlé, je vous ai fait toute une émission, sur la présence réelle. Ça a été extrêmement populaire, la cassette est disponible, c'était fait il y a quelques semaines à peine. Alors, nous voilà bien devant une intelligence, l'intelligence de Leibniz, qui est de type écuménique, qui aperçoit, dit Jean Guiton, le lien analogique de tous les problèmes, puis leur relation avec le problème si difficile de l'unité des chrétiens après la réforme protestante. Alors Leibniz parle au début d'un ouvrage qu'il a intitulé « La théodicée ». Vous savez que c'est lui qui a créé ce mot « théodicée », c'est-à-dire l'étude par la raison de Dieu. Alors, il parle de deux problèmes qui sont insolubles. L'un, pour le géomètre, c'est celui de l'infini. C'est très difficile quand on se met à penser à l'infini de l'univers, hein, ou l'infini des nombres. Et l'autre, c'est pour les gens ordinaires, c'est celui de la prédestination. C'est une grande querelle, la prédestination dans ce temps-là. Mais il disait qu'il y avait un troisième problème dans l'ordre religieux, et c'est celui de l'écuménisme. Car aucune médiation ne semble pouvoir unir jamais les deux formes de cette grande aspiration chrétienne, que sont le protestantisme et le catholicisme. Et Leibniz rêve d'être ici le conciliateur. Leibniz, dans l'esprit dans lequel Leibniz travaille à l'écuménisme, est vraiment magnifique dans un sens. Il applique au maximum sa grande règle pratique, qui est d'agir toujours pour le meilleur, mais en même temps de croire que l'échec de cette action en vue du meilleur est meilleur encore. Alors comment cela? C'est assez curieux, hein? C'est que cette action substitue à l'amour précipité et personnel du bien le consentement à la lenteur des projets cachés de Dieu. Dieu, selon Leibniz, c'est très important, ça a besoin de nos croix, de nos déceptions, de nos échecs, de nos fautes même, ô Félix culpa, dit-il, pour composer secrètement ce qu'il appelait l'optimum et qui nous sera un jour découvert. Et c'est vrai que le cheminement de Dieu en nous passe par nos échecs, nos déceptions, nos croix, nos fautes même. Parce que c'est à travers tout ça que tout à coup la charité s'ouvre. Et c'est par la charité que l'union se fera dans nos églises. La charité, l'esprit d'amour, l'Esprit Saint. C'est entre les mains, si on peut dire, de l'Esprit Saint qu'est la réunion de nos églises. Leibniz écrivait, par exemple, à Madame de Brino. Vous savez qu'il y avait des femmes qui étaient très intéressées à ces questions-là dans le temps. Eh bien, il écrivait à Madame de Brino à propos du travail de l'union. J'ai deux maximes, l'une de mettre tout en œuvre pour contribuer à quelques biens, et l'autre d'être parfaitement content quand je ne réussis pas, étant persuadé qu'en ce cas, c'est pour le mieux que Dieu ne le veut pas présentement. Et c'est beau, hein? Il est soumis à l'action de Dieu. Il ajoute, je fais le mien tant qu'il y a de l'espérance, et je suis content du sien quand il n'y en a plus. Il écrit ça en 1699, ça nous rappelle l'abbé Couturier. Connaissez-vous cet abbé Couturier? Vous savez, hein, qui s'est tellement battu, si on peut dire, pour l'union des églises, l'abbé Paul Couturier. Il écrivait au pasteur Roger Schütz, vous savez, celui, il vit toujours, Roger Schütz, qui le prieur du monastère de Thésée, ce monastère protestant. Donc, l'abbé Couturier écrivait, « L'homme propose et Dieu dispose. Notre rencontre n'était pas dans le plan de Dieu. » Pour vous et pour nous, il n'y a qu'une attitude possible. Alors, gloire à Dieu, que sa volonté soit faite. Un échec? Quelle grâce! Quelle preuve! Il y a un dessous divin qui nous échappe et qu'il nous faut adorer dans l'amour. Notre marche avec l'unité vient de faire un grand pas. Dieu a permis un échec. Il prépare donc de grandes choses. À nous de nous laisser purifier, de nous laisser appauvrir de nos désirs, de nos vues, de nos volontés propres. Nous devons entrer dans un grand mystère divin, celui de la souffrance, mystère où se forgent lentement les réconciliations futures. Alors Leibniz avait conçu, lui, que la réunion des églises devait se préparer discrètement par des médiations, des initiatives non officielles, des amitiés entre des diplomates, et surtout, disait-il, des mystiques. Dans son ouvrage consacré à l'unité dans l'amour, Jean Guiton nous parle de Leibniz, dont il est question aujourd'hui à Rencontre spirituelle. Et je m'en inspire pour faire cette émission en bonne partie. Et à un moment donné, Jean Guiton nous dit que Leibniz, grand penseur, l'un des plus grands de tous les temps, était écuménique au sens plein du terme, c'est-à-dire un esprit chrétien qui veut que tous les chrétiens soient unis dans l'amour. Et il ajoute, plus que tout autre chrétien de son temps, Leibniz était-il écuménique et désireux de cette union. Tous ses efforts tendent à réparer la scission de la chrétienté, cette immense séparation. Il n'est pas catholique, mais néanmoins, par un acte limite suprême de l'intelligence. Il ne cesse de se placer, et ça on le sent en le lisant, au point de vue de l'Église catholique. Leibniz indiquait assez souvent certains points où l'Église catholique pouvait manifester de la condescendance. La communion, disait-il, sous les deux espèces, il faudrait la réintroduire. Il faudrait parler de la justification du pécheur. Comment procéder avec le sacrement de pénitence, ou le sacrement de la réconciliation. Il préconisait le mariage, évidemment, des prêtres séculiers. Il parlait de la validité des ordinations qui se feraient chez les protestants aussi, qui n'étaient pas reconnues par les catholiques. Il parlait aussi de l'importance de célébrer le culte divin, c'est-à-dire l'Eucharistie, la messe, et aussi les grands offices dans les monastères, en langue qu'on appelle vulgaire, la langue parlée par tout le monde, ce qui se fait maintenant depuis le Concile Vatican II. Et tout ça, il le disait il y a des siècles, lui qui n'était pas catholique. Il pensait que là, le pape pouvait accorder ces choses, parce qu'il fallait être raisonnable, disait-il, et que ça ne choquerait pas, au fond, les principes de l'Église catholique romaine. Tout ça, il l'a écrit dans « Des méthodes de réunion ». Ce sont des œuvres qui ont été éditées par Fouché de Carrel. Un de ces principes consistait dans la distinction, je vous l'ai dit tout à l'heure, du meilleur et du nécessaire. Leibniz remarquait que ce qui est le meilleur n'est pas toujours absolument nécessaire. C'est assez vrai des fois. Il est remarquable de voir, comme Leibniz avait prévu, même, c'est assez curieux, les modes de la réintégration des protestants. Alors, les protestants, selon Leibniz, pourraient garder leurs usages disciplinaires propres, là. C'est ce que préconisait Leibniz. Alors donc, la communion sous les deux espèces, le mariage des pasteurs, et on distinguera, disait-il, entre les croyances nécessaires et les opinions non nécessaires, puis les protestants demeureront dans l'Église comme un ordre religieux ayant des rites spéciaux. Vous savez que les dominicains ont des petits rites spéciaux, les chartreux aussi. Puis, il y a des rites spéciaux dans certains diocèses, comme à Milan et à d'autres endroits. Et donc, avec des rites spéciaux où il serait encore comme les communautés catholiques orientales, dont je vous ai parlé particulièrement hier, en vous parlant de Saint Joseph Konchevich. Leibniz, dont l'esprit avait le génie des transitions, il offrait des suggestions très, très concrètes. Et que certains vont reprendre plus tard sans se douter qu'il les avait émises, lui. C'était un précurseur. Par exemple, on sait que Leibniz a cru que l'étude du rituel anglican, qui ressemble à notre rituel catholique latin, mais pourrait être, entre les catholiques et les protestants, un principe d'union. J'ai acheté l'autre jour, dans les promenades de la cathédrale, il y a une librairie anglicane, pour quelques dollars à peine, un très beau livre anglican, magnifique, et il y a de très belles prières, et ça ressemble beaucoup à notre missel. C'est intéressant à parcourir. En français, Leibniz cherchait un équivalent, donc, de l'infaillibilité de l'Église, qui pouvait être acceptée par les protestants, les réformés. Il l'avait trouvé. Il dit, l'Église, c'est ce que Leibniz dit, l'Église pouvait se tromper. Mais non de telle manière qu'elle nous donne ou qu'elle se donne. Un catholique n'était donc jamais obligé, pour faire son salut, de quitter l'Église. Pas plus qu'un protestant, pour faire son salut, ne pouvait être obligé d'y entrer. Chacun, selon lui, devait demeurer en sa place. Ainsi, l'Église n'était pas proprement infaillible, mais elle était indamnable. C'est son expression, indamnable. Il demeure un grand esprit, qui est apte à se placer au point de vue de l'autre. Mais il ne se rendait pas compte à ce moment-là que ce moyen terme, comme beaucoup d'ailleurs de ces médiations, était tout entier du côté protestant. Il ne s'est jamais départi finalement de son tempérament et de ses convictions protestantes. Il ne pouvait pas se servir de passage. On pourrait dire que ses façons de traiter tout ça, c'est comme s'il avait construit un pont, puis l'arche du pont était sur une seule rive, du côté protestant, puis l'autre arche du pont, ben, il n'y en avait pas. Il propose d'ailleurs de réformer le catholicisme. Il y a toutes sortes d'idées, je vous en passe beaucoup, mais il voulait aussi fournir la justification des dogmes en apparence les plus inadmissibles aux gens de son temps, comme la résurrection de Jésus et la transsubstantiation, en montrant la convenance aussi des pratiques en apparence corrompues, comme le culte des saints ou les messes privées. Il voulait qu'il y ait des réformes de ce côté-là. Enfin, il fallait aussi donner des plans de réforme pour les ordres religieux, puis des directives concernant la mission de l'Église dans le monde. Mais en faisant ça, il se contente, au fond, du moins il le croit, de bien petites choses, mais il pense, lui, qu'il contente les deux parties. Mais au fond, il se contente de régler des petits malentendus de détails. Il prépare, comme dit Jean Guiton, il prépare une union qui ne demandera à aucun des partis en présence de se renier. Les catholiques vont rester catholiques, les protestants vont rester protestants, puis finalement, il n'aura rien fait. Et la réunion, une fois accomplie, bien, les différences qui subsisteraient encore par le poids du passé, puis sa perception confuse, s'en tendraient à s'évanouir. D'ailleurs, il écrivait toujours à Madame de Brinon, cette parole très importante, « Vous avez raison de dire que de la manière dont nous nous y prenons, il semble que les catholiques deviendraient aussi tous protestants et que les protestants deviendraient catholiques. C'est ce que nous prétendions aussi. Il en viendra un mixte, s'il plaît à Dieu, qui aura tout ce que vous reconnaissez de bon en vous. Il y a longtemps que j'ai dit que lorsqu'on aura fait tous les protestants catholiques, on trouvera que les catholiques sont devenus protestants. » Alors, comme vous voyez, c'est un écuménisme assez curieux, mais ça part d'un esprit qui est un grand esprit. Il est le précurseur. Hein. Il réfléchit sur la notion des ordres religieux, comme je vous ai dit. Il a cherché les conditions d'une adaptation qui serait parfaite, là, des grands ordres religieux à leur but qu'il se propose, qui est à ses yeux une réalisation plus efficace du plan de Dieu sur l'humanité. L'idée de Leibniz était de garder à chaque ordre religieux existant ce qu'il avait de meilleur, puis d'intégrer ce meilleur dans un ordre plus compréhensif, dans un ordre religieux plus compréhensif. C'était en même temps de faire profiter chacun des ordres qui existaient, là, ceux du moins dont l'institution était assez ancienne, de l'esprit moderne, qui était un esprit de raison et de science, disait-il. Il rêvait même de transformer les ordres en un grand ordre suprême. Alors, il aurait supprimé, j'imagine, les bénédictins, les franciscains, les dominicains, tout ça pour former un grand ordre. Des rêves, des rêves. Hein. Leibniz voyait dans l'ordre des jésuites l'établissement religieux peut-être le plus voisin de celui qu'il aurait pu fonder lui-même. Il aimait beaucoup les jésuites. Lui qui était luthérien, en principe. Il était préoccupé, comme les jésuites, de la gloire de Dieu. Mais les jésuites étaient institués, il n'était pas nécessaire de les fonder à nouveau. Alors pour lui, c'était une économie d'effort. Alors il ne pouvait pas s'agir d'autre chose que d'achever, ou du moins de poursuivre l'œuvre de saint Ignace de Loyola et de ses premiers compagnons, en lui infusant quoi? Mais la petite différence capable de faire progresser les jésuites tels qu'ils étaient dans son temps, vers sa limite et vers sa perfection. En somme, il voulait réformer les jésuites, quoi. Leibniz a dit qu'il désirait reprendre l'effort des jésuites là où cet effort s'était arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il dirait s'il venait aujourd'hui. Il aurait un grand effort à faire, peut-être, je ne sais pas. En 1671, dans une lettre à Arnaud, le fameux janséniste, il écrit: si nous ne pouvons satisfaire à ce besoin de science, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'importance de la science pour lui, jointe à la religion. Alors, si nous ne pouvons satisfaire à ce besoin de science, il faut renoncer à la propagation véritable de la religion. Bientôt, beaucoup plus d'hommes ne seront plus chrétiens qu'en apparence. Ah oui, de mauvais esprits énergiques travailleront à la ruine de la foi, et l'athéisme, et le naturalisme, seront les dernières des hérésies. On dirait qu'il parle pour notre temps. Bien oui, nous sommes tombés là-dedans, dans l'athéisme et le naturalisme. Guiton ajoute que c'est pourquoi Leibniz voulait que les esprits religieux, à tous les degrés, puis dans tous les états, soient éclairés, et qu'on relève l'étude des sciences du discrédit où l'avait placé un faux ascétisme, et les gens qui pensent qu'il faut être ignorant pour être catholique. Parce que les petits et les humbles entreront au ciel, mais l'humilité n'appartient pas aux gens ignorants. L'humilité, elle appartient à tout le monde. Le pape, qui est un savant, je pense qu'il est humble. Saint Thomas d'Aquin, qui était un des plus grands savants de toute l'histoire catholique, était humble. Et on connaît des gens qui ne connaissent rien, mais qui sont très orgueilleux. Tout ça ne veut rien dire. Hein? Donc, il voulait corriger ça. Il était bien différent de Pascal, qui, dans les derniers jours de son existence, lui renonçait à l'exercice du génie pour que la charité règne sans partage. Mais Pascal était teinté de jansénisme. Et Leibniz remarquait que, je cite, « Quoi qu'on puisse être sauvé et vivre aussi en honnête homme sans savoir, ni l'histoire ni les mathématiques, il importe néanmoins au public qu'il y ait des hommes qui cultivent chacun celle de ses connaissances pour laquelle il aura le plus de talent. Car l'on sait que, bien loin que ses occupations particulières empêchent de pratiquer les vertus chrétiennes, ses études servent, quoique les unes plus directement que les autres, au grand but que l'on doit se proposer. » Ce que Blaise Pascal aurait pu objecter ici, c'est quoi? C'est que l'étude des sciences ne peut servir au salut qu'après la purification du cœur. Et c'est vrai, ça, hein? La base, c'est la purification du cœur. Saint Jean de la Croix, après les épreuves de la vie mystique, permet à l'âme enfin dépouillée d'elle-même, dit-il, l'usage des biens et même des biens sensibles. L'homme alors peut tout sublimer, ayant renoncé à soi. Donc l'application aux sciences doit venir dans une âme qui est purifiée dans son cœur. Mais au contraire, Leibniz lui semble penser que l'étude des sciences a par elle-même la vertu d'élever l'âme, et que par elle-même, elle donne à Dieu sa gloire, de sorte qu'elle pourrait devenir l'équivalent ou le substitut de la religion, mais ce n'est pas le cas. Je ne saurais trop vous recommander ce livre qui vient de paraître de Louis le Prince Ringuet. Le Prince Ringuet, c'est un nom de famille, comme Beaugrand Champagne. Le Prince, c'est L-E-P-R-I-N-C-E, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas, trait d'union Ringuet. Il est de l'Académie française. Il est né en 1901, toujours vivant. Membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Élève de Maurice de Broglie. Louis le Prince Ringuet a joué un rôle de premier plan au commissariat l'énergie atomique. C'est une des plus grandes figures du monde scientifique français. Il a publié « Foi de physicien », « Testament d'un scientifique », paru chez Bayard Éditions et Centurion. J'en ai lu quelques pages. C'est très intéressant, voilà, chez ce grand, grand croyant, unir la science, les connaissances les plus fantastiques à une foi immense. C'est un catholique profond. Il y a sa photo avec sa pipe, il fume encore la pipe. Il y a sa photo sur la couverture. Je vous recommande ça, ça vient tout juste de paraître. N'hésitez pas à offrir ça à des jeunes qui sont des esprits scientifiques et vous voudriez les voir connaître l'un des plus grands savants de ce siècle et en même temps, peut-être, Jésus-Christ. Nous sommes à Rencontre spirituelle en compagnie de Leibniz. Je viens de vous parler d'un ouvrage, je rappelle le titre, Louis le Prince Ringuet. De l'Académie française, Foi de physicien, petit livre de 170 pages. L'écuménisme de Leibniz est un écuménisme plutôt syncrétiste. Il est placé entre le catholicisme et le protestantisme, puis il est désireux de les accorder, je vous l'ai dit. Mais Leibniz ne choisit pas un des deux termes pour y faire rentrer l'autre. Il ne propose pas une unité écuménique dans laquelle les deux religions viendraient se résorber, là. Ainsi, il s'efforce de réformer le protestantisme selon son modèle idéal, par plus d'union dans les confessions protestantes pour qu'elles cessent de s'émietter, et plus de souplesse dans les principes, plus de conformité à la tradition dans les pratiques aussi, plus de largeur dans ses relations avec l'Église catholique. Puis en même temps, il propose de réformer le catholicisme, comme on l'a vu tout à l'heure. Leibniz fait un effort pour se placer au-dessus de la mésentente et pour concilier la conception catholique romaine de l'unité autour de la seule Rome, avec une conception compréhensive de l'union des églises. Mais ici encore, il demeure plus écuménique que catholique. Et la raison d'être de l'Église catholique, c'est quoi? Elle essaie d'affirmer qu'elle est unique, on le sait, mais avec beaucoup de respect pour tous les autres. Il faut lire les beaux documents du Concile Vatican II pour voir que quand l'Église affirme qu'elle est unique et qu'elle a le dépôt, que c'est elle, l'Église du Christ, elle le fait humblement. On le voit dans les textes de l'Ancien Concile. Elle ne le dit plus du haut de sa grandeur et de la prétention. Mais dans ce temps-là, l'intransigeance catholique paraissait à Leibniz être intolérance. Et c'est qu'il admet à la fois la valeur catholique et la valeur protestante. Et bien plus, si le philosophe en lui devait choisir, bien c'est la valeur protestante qu'il préférerait, comme étant la plus pure, ou plutôt la seule pure, la seule vraiment universelle et digne de l'esprit. C'était l'opinion de Leibniz. Une chose étrange, Leibniz tenait à être un vrai catholique malgré tout. Oui, malgré son éloignement extérieur, il écrivait à Madame de Brinon encore, « Vous avez raison, Madame, de me juger catholique de cœur. Je le suis même ouvertement, car il n'y a que l'opiniâtreté qui fasse l'hérétique. Et c'est de quoi, grâce à Dieu, ma conscience ne m'accuse point. » Alors il se reconnaissait comme membre de l'Église catholique par la communion de la charité en Jésus-Christ. Voilà. Il y a des gens qui sont comme ça, qui se disent catholiques évangéliques, qui sont protestants. Alors, ils sont un peu comme membres de l'Église catholique, mais séparés, mais unis vers la charité en Jésus-Christ. Ils sont sincères, hein? Faut pas les blâmer, c'est pas moi qui les blâmerai. Mais je trouve triste qu'ils se séparent de notre Eucharistie, qui est la véritable. Alors, Leibniz allait encore plus loin des fois. Et il jugeait cette première condition insuffisante s'il ne faisait pas tous ses efforts pour être aussi de la communion extérieure de l'Église, comme il disait, visible et reconnaissable par la succession continuelle de sa hiérarchie. Il était très près de nous. Mais il faut avouer qu'il est difficile à un non-catholique d'aller au-delà dans la bonne volonté. Pensons que l'attitude de Leibniz, elle fait penser beaucoup à celle de Soloviev dans l'Église russe, je vous en parlerai un jour, qui était russe, orthodoxe, mais qui avait une âme de catholique, puis n'est jamais rentré dans l'Église catholique. Lord Halifax aussi, ça il faudrait en parler un jour, qui était dans l'Église anglicane, mais qui avait une âme de catholique en même temps. Puis pensez à Bergson, Henri Bergson et Simone Veil, deux juifs. Ils ne sont pas devenus catholiques, mais ils avaient des âmes de catholiques. Oh, Simone Veil, c'est fantastique. Et Bergson aussi. Alors Leibniz est persuadé que dans l'état de l'Église romaine, plusieurs des opinions philosophiques auxquelles il est attaché en conscience et qu'il ne peut donc renier sans faute morale ne seraient pas acceptées par les autorités de l'Église catholique. Il serait donc considéré comme hors de l'Église, alors même qu'il y entrerait. J'en ai parlé tout à l'heure, Il assimile son cas à la situation d'un catholique qui se trouverait excommunié injustement et qui ne laisserait pas là de... qui cesserait pas de désirer la communion extérieure de tout son pouvoir. C'est triste, au fond, c'est des âmes déchirées. Que d'âmes déchirées de nos jours. Leibniz me fait penser à tellement de gens que je connais. Leibniz s'intéresse aux personnes qui ont été déclarées hérétiques par suite d'une erreur de fait, et dont saint Augustin dit lui-même que Dieu les couronne dans le secret. Ben oui, saint Augustin disait ça il y a des siècles et des siècles. Mais malgré cet effort, que Jean Guiton croit finalement sincère, Leibniz demeure dans l'univers de la liberté pure. Et c'est toujours dans sa correspondance avec Madame de Brinon, dont l'esprit féminin va droit à l'essentiel, que Leibniz se découvre davantage et Madame de Brinon lui écrit « La vérité, Monsieur Leibniz, ne se partage point. Ou vous vous trompez, ou nous, catholiques, nous nous trompons. Le dernier ne serait être, puisque nous n'avons pas rompu l'union, nous, et que nous sommes toujours demeurés attachés aux gros arbres. » Mais Leibniz répond, lui, en protestant, « Vous dites qu'il se faut tenir au gros de l'arbre, mais le gros de l'arbre est Jésus-Christ. Il est la vigne, nous en sommes les bourgeons. Jugez si ceux dont les dévotions sont solides et vont à Dieu même n'y sont pas plus attachés que ceux qui se jettent dans les pratiques superstitieuses et donnent aux créatures, donc aux saints peut-être, ce qui n'appartient qu'à Dieu seul. Qui se dit, lui, Dieu lui-même, si jaloux de son honneur? Il y a un bon point dans un sens. Il ne faut pas accorder aux saints, ni même à la Vierge, quelque forme de divinité que ce soit. C'est le Christ qui est notre médiateur, lui qui est Dieu même. Médiateur auprès de son Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Et Leibniz ajoute, il faut travailler avec zèle à corriger ceux qu'on trouve dans l'erreur, et quand l'espérance de le faire est perdue, il faut rompre hautement avec ceux qui défigurent l'Église de Dieu. L'Église catholique, quoi. Autrement, on prend part à leur damnation en fermant les yeux sur ces habits publics. Alors voilà une déclaration profondément protestante. Et c'est pourquoi je voudrais que tous ensemble nous réfléchissions au danger dans lequel nous mettons nos frères séparés, en n'étant pas des saints dans l'Église catholique, en n'étant pas fidèles, en n'étant pas vivants, vibrants et pleins d'amour pour Jésus-Christ. Nous péchons. Nous sacrifions l'unité. Le génie, parent de Leibniz, c'est bien Pascal. Mais Pascal n'est jamais quitté l'Église, lui. Malgré ses difficultés, tous les deux s'étaient posé la question du chrétien, « Puis-je me sauver ici ?» Et Pascal avait été tenté de quitter la communion visible de l'Église catholique romaine. Il s'y était pour bien des troubles refusés. Mais inversement, Leibniz avait été sollicité par les princes, les évêques catholiques, des princes catholiques, des amis catholiques, d'entrer dans le corps de l'Église catholique. Il n'y avait jamais consenti, et semble-t-il, de moins en moins à mesure qu'il avançait en âge. Enfin, il convient de noter que Leibniz s'est posé toute sa vie le problème de l'union des Églises, tandis que Pascal, dans les querelles du jansénisme, était amené à réfléchir sur l'unité de l'Église. Leibniz semble plus près de l'idée mère de la religion chrétienne qui est de récapituler toutes choses en Jésus-Christ. C'est beau, hein, comme disait saint Paul. Il existe chez lui une complaisance pour ce que Dieu fait, parce que tout ce qu'il fait tourne à sa gloire. Alors essayons d'aimer quand même cet homme qui ne s'est pas joint à l'Église catholique. C'est Bossuet qui écrivait dans le moment de cette querelle, « Je vois dans le nom d'épouse la marque de la dignité de l'Église. L'Église comme corps est subordonnée à son chef. L'Église comme épouse participe à sa majesté, exerce son autorité, honore sa fécondité. Ainsi, le titre d'épouse était nécessaire pour faire regarder l'Église comme la compagne fidèle de Jésus-Christ, la dispensatrice de ses grâces, la directrice de sa famille, la mère toujours féconde et la nourrice charitable de tous ses enfants. » Que Bossuet explique bien ce qu'est l'Église. J'aimerais vous lire des tas de choses de Bossuet. C'est si beau. Ça nous fait aimer l'Église. Et si nous étions fidèles vraiment à notre mère, l'Église, si nous étions des saints, les gens aimeraient l'Église. Oui. Ô Sainte Mère Église, nourrissez-nous de Jésus-Christ. Faites grandir l'Esprit de Jésus dans nos cœurs. Nous nous abandonnons à votre amour, ô Sainte Mère Église.